Merci de nous écouter. Le journal est signé Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Quand l'homme se tue à petit feu, pots d'échappement, cheminées d'usines, produits chimiques dans l'eau, destruction des écosystèmes, 9 millions de morts en 2015, un quart des décès et des maladies dans le monde. Nouvelle étude alarmante dans 70 pays et sur plusieurs années. Oui ou non à un Brexit sans accord, les députés britanniques votent de nouveau ce soir. Ils devraient exclure ce no deal et demander un report du divorce juste avant les européennes. Explication depuis le Parlement à Strasbourg. Au sommaire également ce soir, les enseignants dans la rue avec leurs élèves en Algérie, toujours contre Bouteflika. Le Boeing 737 MAX encore autorisé à voler aux États-Unis. Le Canada l'interdit à son tour. Les appétits de Vinci pour ADP. Lyon, condamné à marquer à Barcelone ce soir pour jouer les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, Parcoursup saison 2 avec l'épisode 1 qui est bouclé demain soir jeudi. Les vœux, les promis avant une autre phase qui commencera, elle, à partir du 3 avril. Alors vous avez peut-être des questions avant demain, justement. Vous hésitez sur la stratégie à adopter. Vous vous demandez en quoi on a progressé par rapport à l'an dernier. Mettez-vous sur la page de vos vœux sur l'ordi et appelez-nous 01 45 24 7000.
Avions-nous besoin d'une nouvelle étude, une de plus, pour être convaincus des dangers des pollutions pour l'homme? En voici néanmoins une autre qui nous éclaire sur la nécessité de modifier nos habitudes. Un rapport des Nations Unies présenté à Nairobi sur l'état de la planète. 250 scientifiques de 70 pays mobilisés pendant 6 ans et qui nous livre un chiffre effarant, Charlotte Simonard. Un quart des morts et des maladies dans le monde sont donc liés aux pollutions et aux atteintes à l'environnement par l'être humain.
Une épidémie mondiale, c'est en ces termes que les scientifiques qualifient les décès et maladies liés à la dégradation de l'environnement. La pollution de l'air cause à elle seule entre 6 et 7 millions de morts chaque année. Mais il y a aussi l'eau potable contaminée par les produits chimiques et la destruction des écosystèmes, due notamment à la déforestation et l'agriculture intensive. Résultat, rien qu'en 2015, 9 millions de personnes sont décédées suite aux pollutions environnementales. La situation n'est pas irrémédiable pour autant, affirment les scientifiques, qui appellent néanmoins à des actions urgentes et d'une ampleur sans précédent. Un changement des modes de vie est inévitable, ainsi qu'une réorganisation de l'économie mondiale vers une production plus durable. Car le fossé entre les pays riches et les pays pauvres se creuse, la surconsommation au nord précipite pauvreté et maladie au sud, souligne le rapport. Un rapport déjà mal accueilli par certains pays, États-Unis en tête, de mauvais augure pour un éventuel futur accord mondial en la matière. À Nairobi, Charlotte Simonard pour France Inter.
Autre pollution, celle que va probablement provoquer le cargo italien qui a coulé hier au large de la Bretagne. Il transportait des véhicules et des déchets, mais aussi et surtout, Valérie Lenigène, 2200 tonnes de fioul lourd dans ses soutes.
Le risque majeur de pollution, c'est le fioul. Il y a une probable explosion des cuves sous la pression. Selon le préfet maritime, les vents viennent de l'ouest. Le risque concerne la côte entre la Charente-Maritime et la Gironde dans quelques jours. Avec un naufrage à une telle profondeur, 4600 mètres de fond et une mer déchaînée, on pourrait espérer une dispersion du fioul dans l'océan, mais non. Selon l'amiral Jean-Louis Lozier, les risques sont réels.
Comme lors des précédentes pollutions, il y a évidemment un risque d'émulsion qui remonterait à la surface, qui pourrait être dispersé, bien évidemment, en fonction de l'état de la mer. Actuellement, pour vous donner, nous avons une mer 7. On peut ne pas voir, à l'heure actuelle, avec cet état de mer, des pollutions. Donc je reste très prudent. Ne pas avoir aujourd'hui de pollution ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain ou dans quelques jours.
La préfecture maritime a demandé à l'armateur, la société Grimaldi, d'organiser une reconnaissance de l'épave et d'étudier la possibilité de pomper le fioul. C'est compliqué à une telle profondeur, mais ce n'est pas infaisable. Quant aux 45 conteneurs de matières dangereuses, il s'agit de produits très variés, une centaine de tonnes d'acide chlorhydrique, 70 tonnes d'acide sulfurique, mais selon les experts, ils ont déjà probablement brûlé et s'ils se diluent, leur impact sera très localisé, contrairement aux risques liés au fioul.
Valérie Lenigène à Brest pour France Inter. L'association Robin des Bois va porter plainte.
Les députés britanniques votent une nouvelle fois ce soir à Londres.
Ils ont refusé hier soir l'accord de Brexit négocié par Theresa May avec Bruxelles. Alors ils se prononcent dans une heure sur la possibilité de sortir de l'Europe sans accord à la fin du mois. Et si la plupart d'entre eux refusent cette hypothèse d'un no deal, eh bien ils revoteront demain, cette fois sur une demande de report du divorce. Nous n'en sommes pas là. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Pour l'heure, Bruxelles, Quentin, attend un choix clair de Londres.
Et ce soir, ici, l'on n'a pas franchement l'impression qu'il existe à la Chambre des communes une majorité claire pour quoi que ce soit. Vous le disiez, le vote qui devrait intervenir à Londres dans une heure environ devrait se solder par le refus de la sortie brutale, sans accord, le 29 mars prochain, mais sans la moindre indication des moyens juridiques, techniques et politiques de l'empêcher de se produire. On reste donc dans le vœu pieux. De même, demain soir, les communes devraient émettre un vote réclamant une prolongation de la situation actuelle au-delà du 29 mars, en oubliant un peu vite que semblable décision n'appartient pas à la partie britannique. L'article 50 du traité réserve cette compétence aux 27 chefs d'État et de gouvernement européens statuant à l'unanimité.
Quentin, si les députés refusent une sortie sans accord, comment peut se passer ce report du Brexit ?
Les 27 ne sont pas opposés par principe à une prolongation de la période de 2 ans prévue par le traité, mais ils poseront 3 questions qui sont autant de conditions. D'abord, pour combien de temps ? Ensuite, pourquoi faire ? Enfin, avec quelle garantie de succès ? C'est qu'une prolongation courte de quelques semaines seulement ne suffirait évidemment pas pour trouver la solution miracle que 19 mois de négociations techniques intensives n'ont pas permis d'atteindre. Et une prolongation plus importante, de 6 à 21 mois, outre qu'elle obligerait les Britanniques à organiser des élections européennes au mois de mai, accroîtrait la probabilité que le Royaume-Uni se trouve constamment sur le départ, mais ne partirait jamais. Cette hypothèse, appelée ici l'option Hotel California, est d'ores et déjà vivement combattue par les Brexiteurs.
Quentin Dickinson en direct du Parlement européen à Strasbourg. Merci Quentin. Et résumé de la situation et de la position d'une partie des Européens par Emmanuel Macron depuis Nairobi au Kenya, la solution à l'impasse actuelle est à Londres.
L'accord de retrait n'est pas négociable. Et donc, si les Britanniques demandent un nouveau délai, cela peut être un délai technique pour mettre en œuvre une sortie. À ce moment-là, il appartiendra d'observer cette demande et notre négociateur aura à s'exprimer. Mais si un délai additionnel était demandé, il faudrait alors qu'on nous explique pourquoi en faire, et en particulier qu'il apporte quelque chose. Et donc que ce ne soit pas pour renégocier un accord que nous avons déjà négocié pendant de nombreux mois, dont nous avons dit qu'il n'était plus négociable et dont nous avons constaté à multiples reprises qu'il ne donnait pas lieu à une majorité positive au Parlement britannique.
Le chef de l'État au Kenya et au micro de Cyril Graziani. Alors certains disent au Royaume-Uni que le pays est au bord du précipice. En France, les douaniers rejettent le coup de pouce promis par Bercy, 14 millions d'euros pour mieux rémunérer les agents, qui réclament aussi des embauches supplémentaires en cas de Brexit précisément. La grève du zèle continue donc au port de Dunkerque et de Calais et les accès sont difficiles, Winnie Claret.
Et pas simplement pour les routiers. À partir de Bourbourg, près de Dunkerque, les automobilistes aussi se retrouvent piégés dans les bouchons sur la 16 en direction de Calais. Cindy voyage avec ses enfants et sa mère, Régine. Elles doivent se rendre à Audruic, à une vingtaine de kilomètres de là. Et après plus d'une heure à l'arrêt, la maman est inquiète.
J'ai quand même 4 enfants, un bébé à bord, donc j'aimerais bien que ça se débloque.
Pour nous, personnellement, on les comprend font grève, mais il ne faudrait quand même pas abuser pour les gens qui...
Alors, sachant que j'ai quand même des bébés, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Ici, on se doute que les bouchons sont dus à la mobilisation des douaniers au port de Calais, mais aucune idée de la durée d'attente sur l'autoroute. Quelques voitures de police passent, sirènes tournantes, sans s'arrêter. Sébastien est poseur de tuiles, il part travailler à Boulogne-sur-Mer à une 60aine de kilomètres.
Et là, c'est ce que où là ? On va pas dormir ici quand même, non ?
Des automobilistes inquiets et pour certains fatigués. Morgane rentre d'une matinée de travail à direction Boulogne lui aussi.
On attend et enfin, ça devient long quoi.
Ça fait combien de temps que vous êtes bloqué maintenant ?
Ça fait 2h15, c'est long. J'ai faim.
Après 2h30 d'attente, la circulation reprend sur la 16, complètement bloquée sur une 10aine de kilomètres au total. Des perturbations qui risquent de durer alors que les douaniers appellent à continuer la mobilisation dans les ports, les gares et les aéroports.
Winnie Claret de France Bleu Nord à Calais pour Inter. Eux aussi restent mobilisés, les gardiens de prison. Après l'agression de 2 d'entre eux à Condé-sur-Sarthe mardi dernier et avant le rendez-vous demain chez la garde des Sceaux Nicole Belloubet, 13 établissements touchés encore aujourd'hui par le mouvement.
Les manifestations ne cessent pas en Algérie.
Les mots d'ordre ont un peu changé depuis l'annonce du retrait d'Abdelaziz Bouteflika et du report de la présidentielle, mais la rue reste mobilisée désormais contre une prolongation du 4e mandat du chef de l'État. Côte à côte, aujourd'hui à Alger, élèves et enseignants. Reportage, Waïba Filali.
Des milliers de blouses blanches crient leur haine du pouvoir en place. Les blouses blanches, ce sont les tenues portées habituellement par les enseignants en Algérie. Enseignants qui ont donc délaissé leur salle de classe le temps d'une journée. Voleurs, vous avez pillé le pays, voilà ce que crie Selma, enseignante de français dans un quartier populaire de Beb Louette près d'Alger.
Parce que le système est pourri et il nous pourrit l'existence. Donc nous en avons marre. Nous, enseignants, nous sommes aussi des citoyens. Bouteflika ne dit plus rien. Les ministres font ce qu'ils veulent. Leurs enfants sont à l'étranger. Et ce sont les enfants du peuple qui payent. Et nous disons, basta, il y en a marre.
À ses côtés, une autre prof de français, Kerina, a écrit une phrase de Victor Hugo sur son panneau qu'elle prend en photo fièrement.
Alors, la solidarité des hommes est le corollaire invincible de la solidarité des univers. Donc allons vers un univers meilleur. L'injustice, c'est d'abord cette jeunesse-là, à laquelle plutôt on fait barrage. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire passer le flambeau à cette jeunesse. Et cette jeunesse, c'est un génie. Si on la laisse parler, si on la laisse créer, si on la laisse vivre et respirer. Si nous, en tant que génération, nous ne nous mobilisons pas aujourd'hui, qui va se mobiliser plus tard? Donc on n'a pas le droit de se taire.
Les deux femmes seront à nouveau place Audin après-demain pour la désormais traditionnelle manifestation du vendredi.
Weiba Filali à Alger pour Inter. Le nouveau vice-premier ministre algérien assure de son côté que le gouvernement est prêt au dialogue avec l'opposition et que sa priorité est de rassembler tous les Algériens. La priorité dans le dossier Boeing 737 MAX 8, c'est la sécurité des passagers et des équipages après l'accident du vol Addis Abeba Nairobi dimanche. Alors la liste des pays qui l'interdisent de vol s'allonge après l'Égypte et la Grèce. Le Canada immobilise à son tour l'appareil. Une décision que le constructeur américain devrait prendre de lui-même, d'après le PDG d'Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam.
Nous ne voulons pas faire de spéculation, ni même encourager les autres à spéculer. Mais il y a des similitudes avec l'accident de Lion Air survenu en Indonésie. La sécurité doit être la priorité pour une compagnie aérienne. Nous avons pris la décision de clouer au sol dès dimanche tous nos appareils de ce type. Pour nous, c'était évident. J'estime que c'est la seule chose à faire. C'est ce que nous avons fait et je crois que c'est le choix qu'il faut faire aujourd'hui.
Le PDG de la compagnie Ethiopian Airlines sur la BBC. Les boîtes noires de son appareil tombé en Éthiopie devraient être envoyées en Europe. Addis Abeba n'a pas l'équipement pour les analyser. Des avions aux aéroports en France avec une privatisation d'ADP. Oui, mais de quelle ampleur? 20% du capital conservé par l'État, comme le disait Benjamin Griveaux hier sur Inter. Toutes les options sont sur la table, d'après le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui précise que la question sera tranchée dans les prochains mois. Privatisation défendue, en tout cas tout à l'heure dans l'émission, par Édouard Philippe, alors que l'Assemblée commence le nouvel examen du projet de loi Pacte qui prévoit la privatisation d'ADP. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir Sébastien.
ADP intéresse beaucoup Vinci, déjà acheteur d'autoroutes dans les années 2000. Le groupe semblait bien placé, mais la crise des Gilets jaunes et les collectivités locales sont passées par là.
Oui, car ADP attise aujourd'hui toutes les convoitises et les manœuvres politiques pour tenter de se faire une place dans le futur actionnariat d'ADP. 7 départements franciliens. Patrick Devedjian, en tête dans les Hauts-de-Seine, prêt à investir 6 milliards d'euros pour accéder à la gouvernance d'ADP, un très gros chèque pour s'assurer qu'un opérateur privé, Vinci par exemple, ne viendrait pas troubler simplement la tranquillité des riverains. Et pourtant, le couvre-feu à Orly, le nombre de rotations d'avions, l'aménagement du territoire des 7000 hectares d'ADP seront strictement encadrés dans la loi, martèle le gouvernement. L'objectif serait plutôt de déstabiliser, de chambouler le futur tour de table des actionnaires, explique une source à Bercy, quitte à faire passer Vinci pour le vilain petit canard. Problème, il n'y a pas d'alternative française, industrielle, capable de remplacer Vinci aujourd'hui. Et le gouvernement ne veut pas non plus faire entrer les collectivités au capital d'ADP. Écarter définitivement Vinci d'ADP reviendrait donc à ouvrir la porte à un fonds d'investissement étranger, explique une source proche du dossier. Un véritable casse-tête pour le gouvernement. Vinci devrait donc au final rester autour de la table comme seul interlocuteur aéroportuaire français incontournable, mais sans être capable d'obtenir la majorité des actions d'ADP.
Le groupe Aéroport de Paris qui vient d'être condamné à la peine maximale, merci Laurent Kramer, 15 ans après l'effondrement du terminal 2E de Roissy. ADP écope de 225 000 euros d'amende. 3 sous-traitants sont également condamnés à des amendes. L'accident avait fait 4 morts et 7 blessés. À la page éco, encore jusqu'à 7000 suppressions d'emplois chez Volkswagen, la marque phare du groupe allemand, en cause le passage à l'électrique et la conduite autonome.
La peine de mort recule-t-elle aux États-Unis?
Elle est abolie dans une vingtaine d'États et certains ont décrété un moratoire sur les exécutions. Le Colorado, l'Oregon, la Pennsylvanie, et bien la Californie, Loïc Piella, fait de même.
Souvent présentée comme la région la plus libérale du pays, la Californie ne fait pourtant pas partie des 18 États américains où la peine de mort a été abolie. Seuls les électeurs peuvent y mettre un terme et ils s'y sont opposés par référendum en 2012 comme en 2016. C'est ce qui fait dire à Donald Trump ce matin que le gouverneur démocrate va à l'encontre de la volonté du peuple et que les proches des victimes sont en colère. Mais pour Gavin Newsom, la peine de mort a clairement été un échec, coûtant des milliards de dollars aux contribuables sans effet sur leur sécurité. Surtout, elle est, je cite, « absolue, irréversible et irréparable en cas d'erreur humaine », en plus de toucher de façon disproportionnée les personnes de couleur. Les 737 prisonniers dans le couloir de la mort ne verront pas pour autant leur condamnation réduite. La dernière exécution en Californie remonte à janvier 2006. Un moratoire a été déjà imposé par les tribunaux jugeant inconstitutionnelle la mort par injection. Un nouveau protocole d'exécution était à l'étude, une étude également suspendue par le décret du gouverneur. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Quand Matteo Salvini laisse entendre qu'il veut reprendre la Joconde à la France, c'était ce matin à Rome à l'occasion d'une conférence de presse sur les événements du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, disparu en 1519. Le vice-premier ministre italien parle sur le ton de l'humour et il déclare donc qu'il discute avec l'ambassadeur français pour que l'Italie reprenne le célèbre tableau exposé au Louvre. À voir non pas au musée mais en salle, ce mercredi, Rebelle, le nouveau film d'Alan Modoui, avec Audrey Lamy, Cécile de France et Yolande Moreau, trois ouvrières d'une conserverie de poissons embarquées, Corinne Pellissier, dans un polar social déjanté.
Et tu peux commencer quand ?
Tout de suite. Avec ses faux ongles manucurés, ses bagues à tous les doigts, Cécile de France, Sandra, a bien du mal à s'habituer à la réalité de sa nouvelle condition. Fini les flashs des photographes et la vie de Miss Nord-Pas-de-Calais, la voilà de retour chez sa mère, son boulot, son diplôme, obligée de conditionner des sardines à l'huile pour le compte d'un patron libidineux qu'elle finira par tuer alors qu'il tente un jour de la violer.
Il est mort.
Oh, on a bien vu, merci. Le problème, c'est qu'il faudrait le sortir d'ici.
On peut le sortir petit à petit, hein. C'est notre boulot de faire des boîtes.
Les débuts d'une nouvelle amitié avec Audrey Lamy, Yolande Moreau, elle aussi de corvée, de ménage ce soir-là. Mais le début surtout des ennuis pour ces Amazones prolétaires au look d'enfer, bien décidées à reprendre en main leur destinée face à des hommes et un système qui les écrase. Un film rempli de gags et de situations comiques où ce sont les femmes qui mènent la danse, jouent de la gâchette et donnent des coups avec un air toujours très sérieux. Alan Modoui qui réalise le film n'hésite pas ici à mélanger les genres entre polar, western et comédie sociale. Une bouffée d'air frais et des portraits de femmes loin des clichés habituels sur les classes populaires dans le Nord.
La grande Yolande Moreau sera demain à 7h50 l'invitée de Léa Salamé sur Inter. Une autre grande dame à l'honneur aujourd'hui, la patronne d'Inter, Laurence Bloch, élue femme des médias de l'année par l'Association pour les femmes dans les médias. Le prix lui a été remis ce matin alors que Radio France signait, comme d'autres organes de presse, la charte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. C'est le dernier club français en Ligue des Champions et il rêve d'un exploit ce soir sur le terrain du Barça en huitième de finale retour. Lyon retrouve le géant espagnol de Lionel Messi après le match nul 0-0 décroché à l'aller. Le capitaine Nabil Fekir suspendu est de retour dans l'effectif. Bonsoir Christophe Vincent.
Bonsoir Sébastien.
Et il faut marquer pour les Lyonnais au Camp Nou pour passer en quart.
Oui, un seul but peut suffire à l'OL pour passer, même avec un nul, mais les Lyonnais doivent marquer. À moins d'un 0-0 à l'issue des prolongations, tout se jouerait alors au tir au but. Le scénario est improbable tant les deux équipes sont portées vers l'avant, surtout le Barça. Le score vierge reflète mal la physionomie du match aller. Les Catalans avaient tiré 25 fois au but, mais en face, un héros des grands soirs, le gardien Anthony Lopez, avait tout arrêté. Dégoûté, les Messi, Suarez, Coutinho ou Dembélé vont sans doute remettre le couvert, avec peut-être plus de réussite et 95 000 Catalans en soutien dans les tribunes face à 5000 supporters lyonnais comme Alexis.
On a reçu les billets, on commence à préparer le voyage et puis là ouais, on arrive à l'approche du stade, on voit le stade, on commence à s'immerger, les supporters qui sont présents partout autour du stade et on commence à sentir vraiment la pression là, on a hâte que ça débute.
En Coupe d'Europe, le Barça est invaincu ici depuis 2013, mais avec cette OL-là, mauvais face aux petits, mais fort face aux gros, tout est possible. Réponse dans moins de 2 heures.
Oui, c'est à partir de 21h. Merci Christophe Vincent dans l'enceinte du stade du Barça. Et puis une petite odeur de fromage aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et oui, 577 camemberts au lait cru dans les boîtes aux lettres des députés pour défendre l'appellation d'origine protégée qui pourrait être remise en cause en 2021. C'est C'était ma modeste contribution au bon fromton.
Eh ben, écoutez, ça va rester sûrement dans les couloirs de l'Assemblée pendant un petit moment. Mmh. Voilà. Ils ont qu'à fumer dessus le cigare, des choses comme ça. Ça va être très politiquement correct. Allez, Sébastien Pagour, merci. On se retrouve demain. Le téléphone sonne, ça commence dans quelques minutes. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Allez Sébastien Léas, nouvelle perturbation prévue pour demain.
Oui, une perturbation étendue et bien pluvieuse va nous concerner demain. Les nuages gagneront la majeure partie du pays, éparpillant seulement le pourtour méditerranéen. Les régions de l'ouest auront des pluies généralement faibles qui deviendront même plus éparses demain après-midi. En revanche, des frontières du nord et du nord-est à la Normandie, au bassin parisien jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, la pluie tombera quasiment en continu. Des pluies se réactiveront même l'après-midi sur les régions de l'est avec de fortes chutes de neige sur les Alpes du Nord. Et puis en plus de ce temps pluvieux, il faudra composer avec beaucoup de vent qui soufflera tout au long de la journée.
Température de saison donc, mais plus de douceur dans le sud-est.
Oui, évidemment, grâce à un meilleur ensoleillement, le pourtour méditerranéen aura des températures plus douces. 16 degrés à Istres et Perpignan, 18 degrés pour Fréjus et jusqu'à 19 degrés sur la façade est de la Corse. Et puis sous les nuages, les températures seront plus fraîches mais resteront globalement voisines des normales. On attend seulement 9 degrés à Charleville-Mézières et Épinal, 11 degrés à Lyon, au Havre et à Clermont-Ferrand, 12 degrés pour Abbeville et pour Bourges, 13 degrés à Brest, Paris et Cognac et jusqu'à 14 degrés à Agen.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.